Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. À quand la fin de l'épidémie en France? Ce matin, le président du Conseil scientifique a déclaré qu'elle était contrôlée. En revanche, le Conseil recommande de se préparer encore à 4 scénarios probables pour les mois à venir. Quand le gouvernement défend une solution pour les entreprises qui vont mal, une baisse possible des rémunérations, le temps de passer la crise. Dans ce journal également, le plan de relance de la French Tech ébranlé par la crise du coronavirus. Nous irons également aux États-Unis au lendemain d'une cérémonie en hommage à George Floyd, aux accents politiques empreint de tristesse mais également d'espoir pour un monde meilleur. Enfin, à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, invité de ce journal, Jean-François Julliard, directeur général de l'association Greenpeace France. L'épidémie de Covid-19 est contrôlée en France, déclaration ce matin du président du Conseil scientifique. Alors faut-il en déduire que le pire serait derrière nous? Même si certains signes laissent entrevoir la possibilité de la fin de l'épidémie, Jean-François Delfraissy a aussitôt tenu à préciser que cela ne signifiait pas pour autant que le virus ne circulait plus, mais seulement que l'on constate en effet aujourd'hui une réduction importante de sa propagation. Et d'ailleurs, preuve qu'il est encore trop tôt donc pour se prononcer sur l'avenir de la pandémie, dans un nouvel avis rendu hier, les 13 membres du Conseil scientifique chargés de guider les pouvoirs publics dans la gestion de la crise recommandent en réalité de se préparer à 4 scénarios probables pour les mois à venir. Tarach Legel, bonjour.
Bonjour.
Alors ces scénarios vont du plus favorable, en l'occurrence une épidémie sous contrôle, au plus pessimiste, une dégradation atteignant un stade critique, en passant encore par 2 autres hypothèses intermédiaires. Tara.
Oui, Jean-François Delfraissy et ses collègues sont clairs, aucun des scénarios n'est à exclure, voilà pourquoi il faut s'y préparer, anticiper, afin justement de ne surtout pas tomber dans le scénario 4, celui d'une épidémie qui aurait échappé à tout contrôle et qui nécessiterait peut-être à nouveau un confinement généralisé que le Conseil scientifique veut absolument éviter. Ces 4 scénarios ne se succéderont pas forcément, disent aussi les scientifiques, on ne passera pas à coup sûr d'une épidémie contrôlée, comme c'est le cas aujourd'hui dans le scénario 1, où il faut noter d'ailleurs que les mesures barrières, distanciation sociale, gel, port du masque sont préconisés pendant 6 mois encore. Il n'est donc pas certain qu'on passe de ce scénario 1 au scénario 2 directement. C'est un scénario de mise en évidence de plusieurs clusters critiques. On arrivera toujours à juguler ces clusters dans le scénario 2 en renforçant notamment les stratégies de dépistage, tester, tracer, isoler. Il faudra augmenter les moyens humains pour pratiquer ces tests de façon très large, au-delà des cas symptomatiques, et parfois prôner un confinement très localisé. Il se peut donc qu'on glisse directement du scénario 1 au scénario 3, d'une circulation du virus à bas bruit, où on n'arrive plus à casser les chaînes de transmission, et c'est ici qu'il faudrait activer les plans de prévention renforcés. L'objectif étant d'éviter le scénario 4, le scénario catastrophe qui obligerait à se reconfiner, Thomas.
Alors, pour préparer le pays donc à affronter ces différentes possibilités, le Conseil scientifique propose, Tara, vous l'avez évoqué, d'élaborer dès maintenant donc un plan de prévention.
Oui, un plan qui comprend 7 protocoles à moduler en fonction de la sévérité de l'épidémie. Les scientifiques insistent par exemple dans le protocole 5 sur la nécessité d'aider alors les personnes les plus précaires à accéder aux tests et à s'isoler dans des hébergements s'ils sont malades. Le protocole 4 porte sur les EHPAD où il faudra tester si nécessaire tous les personnels en s'apprêtant éventuellement à les mettre en quarantaine et donc à avoir du personnel en réserve. À noter que dans les EHPAD, les visites familiales seraient maintenues pendant ce protocole, si possible en extérieur, car elles sont cruciales pour les seniors. Le protocole 6 incite les grandes métropoles et notamment l'Île-de-France à se préparer et à préparer des scénarios très précis. Par exemple, pour l'obligation étendue du port du masque ou alors l'interdiction qui est à nouveau possible de certains rassemblements, notamment culturels et cultuels. L'encouragement au télétravail, l'étalement éventuel des horaires pour éviter les pics d'affluence dans les transports. En revanche, le Conseil scientifique dans ce protocole ne prône pas a priori la fermeture des commerces. Mais de toute façon, il faudra avoir un discours très clair et anticipé pour aller vite, le cas échéant. Et puis, le 7e protocole s'intéresse à l'hôpital. Il souligne qu'il faut entretenir les locaux de réanimation et de soins intensifs, même si on en a moins besoin en ce moment, Thomas, et prévoir des repos pour les soignants tant qu'il est encore temps.
Merci Tara Schlegel. Alors, tandis que le gouvernement a promis, lui, de présenter un nouveau plan hôpital d'ici l'été, rappelons que les soignants, eux, continuent de manifester pour réclamer plus de moyens. Hier, syndicats et collectifs du milieu de la santé ont appelé à une journée d'action et de grève à travers la France. Ce sera le 16 juin prochain. Preuve, là encore, que la prudence reste toujours de mise quant à l'évolution de l'épidémie. L'Assemblée nationale doit examiner aujourd'hui un projet de loi permettant à la fois le report du second tour des municipales en cas de regain de contagion, mais aussi un vote par procuration facilité s'il a bien lieu le 28 juin. Et puis l'heure n'est manifestement plus aux divergences. Seuls 15 amendements ont été déposés pour la séance ou quand ramener les Français aux urnes constitue aujourd'hui l'un des enjeux de ce second tour pour lequel partis donc et associations d'élus ont été associés. L'hydroxychloroquine serait-elle l'enjeu d'une lutte d'influence entre l'émergence d'une médecine à contre-courant d'un côté et une médecine dite institutionnelle de l'autre, indissociable de la notion de pouvoir, y compris parfois sous le couvert d'impératifs de protection de la population ou d'informations transparentes des patients. Toujours est-il qu'hier, deux des plus prestigieuses revues médicales mondiales, The Lancet et The New England Journal of Medicine, ont procédé à la rétractation d'articles présentant l'hydroxychloroquine comme inefficace dans la prévention du Covid-19. Deux études qui avaient eu, on s'en souvient, un retentissement mondial, mais plus encore des répercussions spectaculaires, puisqu'elles avaient non seulement poussé l'OMS à suspendre ses essais cliniques, mais aussi conduit le ministre français de la Santé, Olivier Véran, à abroger immédiatement la dérogation qui permettrait d'utiliser donc la molécule controversée à l'hôpital. Et c'est ainsi qu'après avoir suspendu les essais, eh bien l'Agence française du médicament a annoncé qu'elle allait réexaminer sa position. Alors derrière cette pandémie, c'est évidemment le spectre d'une nouvelle cure d'austérité qui ressurgit. Et c'est aussi la raison pour laquelle, afin de rassurer, Emmanuel Macron et Édouard Philippe réunissaient hier syndicats et patronats en quête de solutions pour gérer l'urgence économique et sociale, laquelle prend désormais de plus en plus le pas donc sur l'urgence sanitaire. Alors parmi les annonces faites à l'issue de cette rencontre, le gouvernement a annoncé vouloir bonifier les aides à l'embauche d'apprentis. Il a également annoncé être prêt à revoir la réforme de l'assurance chômage à l'aune du contexte actuel. Enfin, le gouvernement reverra aussi son dispositif de chômage partiel qui a concerné 13 millions de salariés depuis le début de la crise, mais ne peut pas en l'état s'inscrire dans la durée. Alors la ministre du Travail entend notamment proposer une nouvelle formule de réduction du temps de travail aux entreprises en difficulté en échange d'une garantie de préservation de l'emploi. Mais pas seulement, parmi les pistes figurerait aussi la baisse temporaire des salaires en échange d'un maintien de l'emploi, ce que l'on appelle techniquement un accord de performance collective. Et il se trouve que cette formule, donc du travailler moins pour gagner moins et ne pas être licencié, a obtenu le feu vert des syndicats de compagnies aériennes Air Caraïbes et French Bean. Première en France, Annabelle Grelier, mais d'autres déjà pourraient suivre.
Il existe depuis 2017 et il n'avait jusque-là jamais été utilisé. D'une part parce que c'est un dispositif qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il est assez technique et long à négocier. Il passe souvent par la signature de plusieurs accords dans la même entreprise, par corps de métier ou par service. Mais surtout, les syndicats ne voulaient pas en entendre parler et pour cause, l'accord de performance collective, l'APC, ouvre des possibilités de flexibilité énormes pour le patronat. Pas besoin de justifier des difficultés économiques, pas de limite dans le temps, l'accord peut être à durée indéterminée, et puis surtout, l'APC prime sur le contrat de travail. Ce qui veut dire qu'un salarié qui refuse, par exemple, la réduction de son salaire, peut être licencié sans risque pour l'entreprise. On comprend que cet accord pouvait être perçu comme un véritable cheval de Troie dans les acquis sociaux des salariés en 2017. En 2020, après la catastrophe économique due à la pandémie et qui plus est dans le secteur aérien, ça peut se discuter. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les syndicats des deux compagnies aériennes, French Bee et Air Caraïbes. Ils se sont mis d'accord sur une baisse moyenne de 10% de salaire pendant 2 ans maximum, le temps de voir si la reprise suffira. Un effort en échange du maintien de l'emploi. D'autres entreprises pourraient bien suivre l'exemple. Notons que leur réussite tiendra quand même à un bon dialogue social et climat de confiance des directions avec leurs salariés.
Comment éviter que les pépites de la French Tech mises en difficulté par la crise du coronavirus ne soient récupérées par les géants américains et chinois? C'est là l'un des objectifs d'un nouveau plan de relance qui doit être annoncé aujourd'hui. Un programme de 600 millions d'euros qui vient s'ajouter à leur choix à un premier plan de secours de 4 milliards annoncé au printemps dernier.
600 millions d'euros dont 150 seront disponibles dès cet été via la Banque publique d'investissement à destination plus précisément des start-up de la santé, du quantique, de l'intelligence artificielle ou de la cybersécurité. Le reste de la somme servira à renforcer les trésoreries sous forme de prêts, de soutien direct à l'innovation, de façon également à éviter que les technologies les plus sensibles soient trop vite exportées et puissent rester dans le giron des entreprises nationales. L'idée de Bercy est également d'encourager et de soutenir le recrutement de jeunes diplômés dans la tech, un secteur qui emploie actuellement une centaine de milliers de personnes. L'objectif de ce plan, c'est aussi de faire en sorte que la crise n'empêche pas les entreprises dites innovantes de créer de nouveaux emplois dans les années à venir. Enfin, ce nouvel effort financier est imaginé pour que les investisseurs privés continuent de vouloir investir dans les start-up françaises, un secteur qui a bénéficié de beaucoup d'argent public sans réussir toujours à effectuer sa mue. Beaucoup de jeunes pousses technologiques se font racheter avant de devenir rentables, en effet. Quant à celles parfois présentées comme des réussites comparables aux géants de la Silicon Valley, comme le moteur de recherche Quant, une analyse un peu poussée montre que malgré les millions d'euros reçus, leur efficacité n'est pas toujours au rendez-vous.
Alors, après le plan d'urgence de plus de 110 milliards d'euros déjà débloqués depuis le début de la crise, auxquels se sont ajoutés plus de 300 milliards de garanties de prêts pour les entreprises, on le voit, le gouvernement a décidé dans cette deuxième phase de soutenir plusieurs secteurs particulièrement touchés. 40 milliards vont encore être mobilisés dans un nouveau budget rectifié pour 2020 et qui sera présenté mercredi prochain en Conseil des ministres. En attendant, épreuve une fois de plus que la crise économique provoquée par le confinement sera longue et sévère. On a appris ce matin via un tract de la CFDT que Hutchinson, filiale de Total spécialisée dans la transformation du caoutchouc, envisagerait près de 3000 suppressions de postes, dont un tiers en France. Le tourisme nuit-il gravement à la santé du monde et de l'humanité? La crise du coronavirus aura, semble-t-il, rappelé combien cette industrie représente une plaie écologique. Reste que dans nombre de pays, l'économie nationale est aujourd'hui fortement tributaire du secteur et c'est la raison pour laquelle, au grand dam de certains observateurs, un nombre croissant d'entre eux se mettent à rouvrir leurs portes aux vacanciers. L'Italie, pays le plus touché par la pandémie sur le vieux continent après le Royaume-Uni, a été le premier cette semaine à lever ses restrictions pour les voyages. L'Autriche lui a emboîté le pas. Problème, malgré certains efforts de coordination, eh bien la levée de ces restrictions ne se fait pas sans couacs. En l'occurrence, l'Autriche a rouvert ses frontières terrestres avec ses voisins, à l'exception de celles qu'elle partage avec l'Italie. Vienne redoute en effet une possible reprise de l'épidémie depuis la Lombardie, un moment épicentre européen de la maladie, de quoi susciter évidemment le mécontentement de Rome. Et c'est ainsi que cet après-midi, la commissaire européenne aux affaires intérieures devrait proposer que les États membres lèvent tous les contrôles aux frontières intérieures aussitôt que possible. Les autorités françaises ont de nouveau réclamé ce matin la libération de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelra, un an après son incarcération dans les geôles iraniennes. Le 5 juin 2019, la directrice de recherche aux séries de Sciences Po, anthropologue réputée, était arbitrairement arrêtée. Téhéran, qui ne reconnaît pas la double nationalité de Fariba Adelra, l'a condamnée le mois dernier à 6 ans de prison pour collusion en vue d'attenter à la sécurité nationale et propagande contre la République islamique. C'est aujourd'hui le 3e anniversaire de l'embargo contre le Qatar. Le 5 juin 2017, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn rompaient en effet brutalement leurs relations diplomatiques et économiques avec le petit Émirat gazier. Tous lui reprochant à la fois de soutenir des mouvements islamistes et surtout d'être trop proche de l'Iran. Alors 3 ans plus tard, le Qatar s'est adapté à l'isolement que lui ont imposé ses voisins du Golfe, au point que la pétromonarchie est parvenue aujourd'hui à une forme de résilience, comme l'explique Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, joint au téléphone par Valérie Crova.
En un an, comme en 2 ans, comme en 3 ans, l'embargo n'a pas été globalement concluant. Dans la foulée de ce blocus, l'État qatari évidemment est intervenu au même titre que la Qatar National Bank. Ils ont compensé dans un premier temps les fuites de capitaux venant des comptes saoudiens et émiratis, et dans un deuxième temps, compenser, je dirais, d'un point de vue de la balance commerciale, la disparition des échanges avec ces deux voisins. Globalement, le Qatar est parvenu à une forme de résilience qui est certes liée aux ressources, évidemment, de la pétromonarchie, mais qui est aussi fortement liée à cette diversification de l'économie qui a été stratégifiée et qui a porté ses fruits justement dans cette situation-là. Même si la croissance a globalement ralenti pour de multiples raisons, notamment à partir de 2017-2018. 2019, elle était à 1,5 point à peu près, ce qui est beaucoup moins important que les croissances à deux chiffres de l'époque 2007-2010. Le Qatar n'a pas été mis à genoux tel que Riyad et Abu Dhabi l'espéraient.
Un premier hommage officiel a été rendu hier à George Floyd, dont la mort la semaine dernière à Minneapolis aux mains de policiers a soulevé, vous le savez, une vague de protestations historiques aux États-Unis. Dans le même temps, des manifestations très généralement pacifiques ont une nouvelle fois eu lieu dans tout le pays pour réclamer justice et la fin des discriminations raciales. Ou quant à l'approche de l'enterrement de George Floyd, la violence s'estompe et les manifestations se canalisent timidement. Alors ce mouvement de protestation n'en a pas moins réveillé de douloureux souvenirs à Los Angeles. Les pires mais aussi l'arrivée de la garde nationale évoque évidemment les émeutes de 1992. À l'époque, c'est l'acquittement de policiers pourtant filmés en train de passer à tabac Rodney King, un automobiliste noir qui avait embrasé les quartiers de la ville. Reportage dans la Cité des Anges, signé Loïc Piala.
Eldon attend tranquillement son bus au croisement des avenues Florence et Normandie. Même s'il est né en 1992, il sait très bien ce que ce carrefour ordinaire représente dans l'histoire de sa ville.
Ouais, les émeutes de 1992 ont commencé juste là, dit-il.
Ici même, un routier blanc avait été tabassé en direct à la télévision. L'une des images fortes d'émeutes qui avait fait plus de 50 morts et $1 milliard de dégâts.
Et la police est un gang aussi, hein, dit-il. À l'époque, les flics avaient tabassé un gars. Ce n'est pas si différent d'aujourd'hui. Ça ne changera jamais.
28 ans plus tard pourtant, le carrefour respire le calme, comme le reste de South Los Angeles. Les troubles ne touchent pas ce secteur défavorisé. Les manifestations auxquelles participent de nombreux blancs ont lieu ailleurs et les pillages dans les beaux quartiers. Sandy Banks a couvert les événements de 1992 pour le Los Angeles Times.
À l'époque, il y avait une explosion de rage, raconte la journaliste. C'était un processus organique là. Les gens manifestent à travers toute la ville, dans des quartiers où il y a peu de noirs. Ça permet de concerner tout le monde.
Conséquence du mouvement, la mairie réfléchit à réaffecter $150 millions du budget de la police vers les communautés noires et hispaniques.
Toujours aux États-Unis, le taux de chômage du mois de mai qui sera dévoilé aujourd'hui pourrait frôler les 20%. Le cas échéant, il faudrait faire un bond dans le temps de 80 voire 90 ans pour retrouver un taux aussi élevé remontant à la Grande Dépression des années 30. Le Brésil est devenu hier le troisième pays qui déplore le plus de morts du coronavirus. La maladie continue par ailleurs sa progression galopante dans le reste de l'Amérique latine, en particulier au Pérou, au Nicaragua et au Mexique, mettant sous pression les systèmes de santé. Direction à présent le cercle polaire, lancé dans un vaste programme de protection de l'environnement. Voilà que le géant minier russe Norilsk Nickel se voit aujourd'hui rattrapé par une impressionnante pollution sur son principal site dans l'Arctique. Le réservoir de diesel de l'une de ses vieilles centrales thermiques s'est effondré la semaine dernière, provoquant une fuite de plus de 20 000 tonnes d'hydrocarbures, soit l'un des plus grands déversements de carburant de l'histoire de la région. Alors face à l'ampleur de la catastrophe, Vladimir Poutine est personnellement intervenu cette semaine, décrétant l'état d'urgence et rappelant à l'ordre des responsables locaux. Trois enquêtes criminelles ont par ailleurs été ouvertes. C'est une correspondance à Moscou signée Léo Vidal-Giraud.
Sur les photographies satellites publiées par l'agence spatiale russe, on voit une immense tache irisée recouvrant plusieurs rivières. Ce sont 20 000 tonnes de carburant diesel déversées dans le fleuve Ambarnaya, dans la région de Taïmyr. C'est l'extrême nord de la Russie, au-delà du cercle polaire. L'accident a eu lieu le 29 mai, mais la nouvelle n'a été rendue publique que le 3 juin. Tous les affluents du fleuve sont maintenant contaminés. Ils se jettent à terme dans un lac, puis dans la mer de Kara et l'océan Arctique. Les secours s'organisent, des barrages flottants ont été mis en place pour contenir la contamination, mais les opérations sont très difficiles dans cette zone, très difficiles d'accès. Il n'y a pas de route, pas d'infrastructure, des centaines de kilomètres jusqu'à la ville la plus proche. La logistique est impossible. Le gouverneur local a d'ailleurs reconnu manquer de solution. Il ne peut pas garantir que le problème sera résolu rapidement. La cause de l'accident est connue. C'est un glissement de terrain sur une centrale électrique qui a projeté dans le fleuve les contenus d'une cuve de diesel, probablement à cause de la fonte du pergélisol qui fragilise les fondations. C'est un grave problème pour la Russie. En plus des mines et des stations gazières et pétrolières, des villes entières, au-delà du cercle polaire, sont construites sur ce terrain. Et à terme, avec le réchauffement climatique, des incidents comme celui-ci vont fatalement se multiplier.
Et précisons par ailleurs que ce n'est pas le premier scandale écologique touchant Norilsk Nickel, plus grand producteur mondial de nickel. Alors c'est peu dire que la journée mondiale de l'environnement aujourd'hui n'avait pas besoin d'une telle catastrophe pour rappeler au monde combien la planète souffre aujourd'hui. Ce matin encore, on a appris que le mois dernier avait été le mois de mai le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire. Et pour parler de tout cela avec nous, invité aujourd'hui de la rédaction, Jean-François Julliard, directeur général de l'association Greenpeace France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et avec nous pour vous interroger également par téléphone, Véronique Robérod. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Une première réaction toutefois peut-être, Monsieur Julliard, s'agissant donc de cette catastrophe en Arctique, a priori liée au réchauffement climatique.
Oui, c'est extrêmement inquiétant, et surtout le fait que ce soit lié au réchauffement des sols, parce qu'en fait c'est dans une région où les sols sont tout le temps gelés normalement, et les sols en se réchauffant bougent, et du coup vont amener forcément à des catastrophes, à des effondrements comme celui-là, et ça montre que finalement on ne peut pas gérer cette situation autrement qu'en laissant les hydrocarbures là où ils devraient rester, c'est-à-dire dans le sol, et ça veut dire que pour moi cette catastrophe elle est le symbole d'un monde qu'on doit réinventer, qui ne se base plus sur notre addiction, comme c'est le cas depuis des décennies, aux énergies fossiles, pétrole, hydrocarbures, gaz, charbon, etc.
Une question de Véronique Robérod.
Oui, Thomas vient de le dire, mai 2020, le mois le plus chaud jamais enregistré, des températures largement supérieures à la normale, et en Arctique, évidemment, 10 degrés de plus au mois de mai en Sibérie. Vous le dites, hein, vous le répétez, la pire des crises, elle est à venir. La crise climatique, c'est celle que vous redoutez avant tout, et en plus, elle vient doucement, presque.
Bah, elle vient doucement, oui et non. Nous, on trouve qu'elle va déjà très très vite, et on le voit avec cet événement en Russie. La crise climatique, elle est déjà là. Et les alertes, elles ne cessent d'être répétées, et malgré tout, on n'a pas le sentiment que les choses changent, ou en tout cas pas suffisamment vite pour faire face à ces alertes. C'est vrai qu'on ne cesse de redire, et les scientifiques et les météorologues ne cessent d'alerter sur ces indicateurs que sont ces réchauffements qui s'enchaînent les unes après les autres. Enfin, toutes les années deviennent les plus chaudes ou parmi les plus chaudes de l'histoire, et finalement, on a le sentiment que ça ne provoque pas les changements, les transformations de nos sociétés dont on a besoin pour faire face sérieusement à cette crise climatique. Donc on continue de subir, on continue de faire face à ces événements les uns après les autres, et finalement sans se donner les moyens de lutter efficacement contre le dérèglement climatique, malheureusement.
Alors, on le voit quand il y a un coup d'arrêt de l'économie, le confinement nous l'a montré, il a fait temporairement ce confinement et bien du bien à la planète. Ça veut dire quoi? Que quand on veut, quand les changements sont importants, rapides, c'est possible évidemment, mais qu'il faut les décider, ça veut dire que c'est un choix, c'est un changement systémique qu'il nous faut dans nos modes de consommation, de production?
Oui, alors ça a montré à ceux qui en doutaient encore à quel point nos activités humaines, et notamment nos activités économiques productives, ont un impact direct sur la qualité du climat et sur la qualité de l'air. Donc maintenant, ceux qui en doutaient encore, j'espère qu'ils ont été convaincus par ce phénomène qu'on a pu observer très rapidement pendant le confinement. Mais on ne peut pas se réjouir pour autant de cette amélioration, d'une part parce qu'elle est temporaire et qu'on craint que les émissions de CO2 notamment repartent de plus belle sitôt la pandémie passée, et puis surtout parce qu'on les a subis ces arrêts économiques. Ce qu'il faut, c'est s'emparer de ça pour mener à bien des transformations nécessaires. Et quand je dis des transformations nécessaires, ça veut dire se désintoxiquer des énergies fossiles, ça veut dire avoir une économie qui ne repose pas, comme c'est le cas aujourd'hui dans la plupart des pays de la planète, essentiellement sur l'utilisation et la consommation des énergies fossiles. Il faut se fixer des limites dans l'utilisation et l'emploi des ressources naturelles dont on a besoin pour mener à bien nos activités de tous les jours. Donc ce sont des changements profonds de la manière avec laquelle on produit les biens dont nous avons besoin, mais aussi des changements de mode de consommation, des changements de mode de mobilité. Enfin, il faut changer nos sociétés en profondeur, sinon on ne parviendra pas à enrayer cette crise-là.
Encore une question sur les centaines de milliards d'euros investis justement pour relancer l'économie un peu partout. Et il y a un plan de relance aussi européen. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer notamment dans ce plan de relance d'une reprise verte, ou quelles sont vous avez parlé de vos priorités, mais est-ce qu'il y a des lignes rouges aussi pour les décisions à venir qui seraient vraiment à ne pas dépasser?
Alors on est très prudent parce qu'on entend tout le monde aujourd'hui parler de plan de relance vert ou de plan de relance respectueux de l'environnement et tout ça. Donc bon, tant mieux si c'est dans la tête des uns et des autres, et notamment de nos dirigeants politiques. Maintenant, on aimerait vraiment que ce soit traduit dans les annonces et dans les actes concrets. Or, pour parler une seconde de la situation en France, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a bien entendu Bruno Le Maire, par exemple, annoncer qu'il allait faire d'Air France la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement sur la planète. Malheureusement, il n'a pas assorti ses déclarations et ses annonces de mesures contraignantes qui pourraient réellement faire en sorte qu'Air France réduise ses émissions de gaz à effet de serre. Donc on a le sentiment aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de discours, beaucoup de promesses faites par le gouvernement et par Emmanuel Macron. Malheureusement, quand on regarde froidement les indicateurs et les actes concrets, on reste loin du compte. Donc il faut que ça se traduise maintenant dans des actes pour transformer, encore une fois, la manière avec laquelle on se déplace, la manière avec laquelle on produit notre alimentation, la manière avec laquelle on consomme notre alimentation. Tout ça, c'est des changements substantiels, importants, mais si on ne s'attaque pas vraiment à ces transformations-là, encore une fois, on pourra toujours continuer à parler de la crise climatique, mais on ne réglera pas, on n'en diminuera pas, en tout cas, ses effets et ses conséquences.
Merci Jean-François Julliard, directeur général, je le rappelle, de l'association Greenpeace France, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Véronique Robérot. On termine avec un mot de météo, à l'exception d'un quart sud-est qui verra le retour d'un temps plus sec. Partout ailleurs, les conditions restent médiocres avec un ciel couvert et pluvieux. Quant aux températures, elles afficheront entre 15 et 27 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nathalie Lopez. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.